the winter of our discontent.
Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses de dans ce homme en variant le ton.
C'est cela, oui.
To be or not to be.
Il s'appelle juste Leblanc.
That is the question.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Agressif. Moi, monsieur, si j'avais atteint le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse.
Vos beaux yeux ne font mourir d'amour.
Leblanc, mais je me demande s'il n'y a pas une autre façon de les tourner.
Eh bien, on va les mettre comme vous avez dit.
Belle marquise. Votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. Lui, c'est pareil, c'est juste.
Ou bien,
c'est un crime.
L'amour mourir me font. Belle marquise, vos beaux yeux.
Le bien,
vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien mourir, vos beaux yeux, belle marquise d'amour me font. Ou bien me font, vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour.
Moi, malheur, laquelle est la meilleure?
D'être cryptique. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Dramatique, c'est la mer Rousse. Naïf, ce monument, quand le visite-t-on?
Je suis un
peu
journal plus sautaire, la fortune et la gloire.
Comme un lierre obscur qui circonvient d'un gros et s'en fait un tuteur en lui laissant les sens. Grave et par ruse, au lieu de s'élever par force, dans vertu.
La tmeur des yeux, meuf du cœur et meuf du cul.
Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue à ATC, l'émission que tu aimes regarder dans ta petite radio à toi tout seul, en tant que toi-même.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Alors aujourd'hui, nous allons nous lancer, n'est-ce pas, sur les traces des grands auteurs de théâtre, puisqu'effectivement, l'émission parlera du théâtre et du cinéma. Voilà.
C'est nul.
Vous voyez, là, c'est l'exemple frappant, quoi. J'ai voulu faire de l'humour, bah, c'est tombé complètement à plat.
Bonjour, Gwen.
Bonjour, Hugo.
Ça va?
Oui, ça va formidablement bien.
La famille, les enfants,
oui,
la patrie.
Ça... Oui, c'est ça, oui. Voilà, bon.
T'as mangé ton carambar?
Bien sûr, toujours.
T'en veux un autre, hein? Tiens, mon petit. Attrape. Il est nul en attrapage. Alors nous allons commencer l'introduction. Dès que le cinéma a entrevu la possibilité de raconter des histoires, de les mettre en scène, il s'est tourné vers le
théâtre.
Non, le modèle du théâtre. Le cinéma a beaucoup pris au théâtre à son contact, en s'appropriant diverses composantes comme le jeu des acteurs, le décor, virgule, la scénographie. Non. La scénographie, le dialogue, la dramaturgie et, en les adaptant à ses propres moyens d'expression, la construction des premières salles de cinéma prolonge l'architecture du théâtre. Une blague, Gwen?
Non, c'est bon.
Abracarambar. Alors que le qualificatif de théâtral a souvent une connotation négative, pour désigner le style d'un film, c'est justement de ses rapports avec le théâtre que le cinéma a pris conscience de sa nature singulière en tant qu'art et dans ses propres enjeux esthétiques entre l'attrait pour la réalité et le piège de ses faux semblants. Ça veut rien dire, cette phrase. Nombreux sont les cinéastes qui ressentent la nécessité du théâtre pour définir leurs possibilités de leurs gestes d'artiste. Deux points. Marcel Pagnol, Sacha Guitry, Jean Renoir, Charlie Chaplin et bien d'autres que des morts. Le théâtre demeure une source d'inspiration irréprochable,
irréversible,
non, inépuisable pour bon nombre de scénaristes et de producteurs en tout genre, qu'ils soient contemporains ou non. Hein.
Je suis contemporain, moi.
Voilà. Beaucoup d'auteurs se sont...
Oui, bien sûr.
Dépouillés de leur œuvre. Je vais te défoncer pendant que tu vas parler. Toi.
C'est fini de me martyriser, Félix. Je vais vous dénoncer parce que vous êtes un porc. D'ailleurs, vous avez une tête de porc.
Et ce, avec plus ou moins de réussite. Certains, même à l'instar de Molière, hein, Racine, Oscar Wilde, ont également fait l'objet de biopics.
Ah oui.
Cite-moi un.
Bah, Molière, d'Ariane Mouchkine, par exemple.
Encore un in. Hein.
Bah oui.
Cette semaine, Monsieur Gwen a choisi de vous proposer, en toute subjectivité, la sélection des plus grandes transpositions théâtrales réalisées au cinéma. Levé de rideau.
Les trois coups.
Oui. Poète, donc dramaturge et écrivain, William
Shakespeare.
C'est bien, s'intéresse à la nature humaine dans toutes ses formes, aussi bien à travers la comédie que la tragédie, sans oublier l'histoire. L'ensemble de son œuvre le démontre parfaitement et ses meilleures pièces ont d'ores et déjà fait l'objet d'une adaptation cinématographique.
Oui.
Certains sont à oublier, hein, comme Le songe d'une nuit d'été de Michael, on donne même pas son nom tellement que c'est nul. Hamlet aussi de Franco Zeffirelli. Ou La marchande de Venise de Michael Radford. Ça, on n'en parlera pas, c'est trop nul. On va se pencher sur les meilleurs. Hein. Donc, nous allons parler de Roméo plus Juliette, hein, de Baz Luhrmann. Ça,
oui,
c'est un chef-d'œuvre.
Et puis, en plus, c'est d'actualité, puisqu'il y a le Gatsby le Magnifique qui sort en avant-première.
C'est nul.
De Cannes.
Il est nul, n'allez pas le voir. Allez voir plutôt le film avec Robert Redford.
Ok, d'accord, super. D'accord.
Qui s'appelle aussi.
Bah oui, Gatsby le Magnifique. Ouais. Bah oui.
Attention, c'est parti. Molière, nous voilà.
Non. Avant tout, Shakespeare, mon cher. Shakespeare, hein. Quand même, 1564 à Stanford-upon-Avon.
Ça veut dire quoi?
Ben c'est là où il est né, mon monsieur. En plus, il a la particularité d'être né un 23 avril et d'être mort un 23 avril aussi. J'aimais bien la date. Donc, il a écrit quand même 37 œuvres dramatiques entre 1580 et 1613. Je sais, j'y étais.
On parle du cinéma au théâtre.
Oui, mais voilà.
Sacre merde ! Non, mais qu'est-ce qu'elle me dit, la mongolienne ?
Tête de rat !
Tu vois ce que j'en fais, moi, de ta feuille, pauvre conne !
Oh !
Ah ! Elle a voulu me péter le pied, la salope !
Donc, dans les œuvres principales, il y a donc le fameux Macbeth. Donc, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, on va revenir à l'émission d'avant, puisque ça parle de la Norvège et de l'Écosse qui se livrent une bataille. Où Macbeth, cousin du roi Duncan et son chef.
MacLeod.
Et son chef s'illustre par son courage, sa persévérance et sa loyauté. Revenant victorieux, il rencontre trois sorcières qui le désignent duc de Glamis, ce qu'il est, et duc de Cawdor et futur roi. Le roi le fait nommer duc de Cawdor et Lady Macbeth pousse son mari à assassiner le roi. Le règne de Macbeth, guidé par la peur, la culpabilité, est placé sous le signe des meurtres arbitraires. Macbeth finit par soulever une révolte contre lui. Il finit assassiné alors que le fils de Duncan, Malcolm, exilé, revient. Alors, en 1948, il y avait le Macbeth de et avec Orson Welles. En 1957, le château de l'araignée d'Akira Kurosawa. Et 1971, évidemment, sans doute le plus connu, le Macbeth de Roman Polanski. En 2003, et là ça fait référence à une autre émission que nous avions fait, il y a le Macbeth de Vishal Barjavai. Donc un Macbeth en version Bollywood. Donc ensuite, il y a Othello, donc le mort de Venise. Othello est un noble mort, tout juste marié à Desdémone. Il s'apprête à enfoncer les Turcs à la tête de la flotte vénitienne. La tempête détruit la flotte turque et Othello est nommé gouverneur de Chypre.
C'est pas un jeu ?
Si, c'est dans une baignoire, ça s'appelle. Iago, qui convoitait sa place, décide de se venger. Il fait déchoir Cassio, le bras droit d'Othello, qui le répudie, puis fait germer la jalousie dans l'esprit de son seigneur en lui faisant croire que Desdémone le trompe avec Cassio. Et là, il le pousse, et à un moment, Othello
tombe.
Il zigouille.
C'est tragique.
Oui, bah, c'est souvent tragique, hein, d'ailleurs. Donc, voilà, et il tue, et évidemment, Emilia, la femme de Iago, lui avouera le complot, il la tue. Et se suicide, rongé par le remords, Iago s'apprête à être torturé, exécuté, et Cassio est nommé gouverneur de Chypre. Et donc, en 1948, il y avait l'Othello de Georges Cukor. Ensuite, en 52, The Tragedy of Othello 2, et avec encore Orson Welles. En 1965, Othello de Stuart Brunch, avec Sir Laurence Olivier et Maggie Smith, la fameuse McGonagall de Harry Potter. En 95, Olivier Parker, avec Larry Fishburne, le Morpheus de Matrix, qui joue évidemment Othello, et Kenneth Branagh et Irène Jacob. En 2001, il y a O, de Tim Black Nelson. Ça se passe là dans le cadre d'une université américaine. Et il y a ta fameuse copine Julia Stiles dedans. Et évidemment, en 2006, de nouveau Bollywood, avec Omkara de Vishal Barjava. Décidément, c'est lui qui adore ça. Donc, et évidemment, c'est dans l'état actuel du Uttar Pradesh. Roméo et Juliette, hein.
Ah ben.
Bah oui, voilà.
Comment ne pas en parler, hein.
Voilà, c'est ça. Alors, celui qui est le plus connu, enfin, le plus classique, c'est celui de Franco Zeffirelli.
Il est minable, celui-là.
Oui, mais c'est le plus classique.
Ah non, moi j'ai pas aimé.
Oui, non, mais.
J'ai préféré.
Roméo plus Juliette.
Voilà.
Oui, mais. Bah, moi je trouve que t'as raison. Alors, il y a deux distinctions qui se font.
Vas-y.
De toute façon quand on fait Shakespeare. C'est soit on fait effectivement, on fait des adaptations hyper classiques, et c'était le cas de Franco Zeffirelli, puisqu'il a fait La Mégère apprivoisée en 1967, et qui est interprété par Richard Burton et Elizabeth Taylor, qui est un grand classique, puisque on sait qu'ils étaient un couple vraiment très très fort dans le cinéma et en dehors de la scène.
Mais ça ne nous regarde pas.
Oui, tout à fait. Mais bon, voilà, ce qui marche bien dans la Mégère apprivoisée, puisque c'est une histoire de couple.
Comme
qui
tout
se forme
d'ailleurs.
Et voilà, c'est ça. Et Roméo et Juliette en 68, effectivement, mais c'est très académique. Et puis il y aura aussi le fameux Hamlet avec Mel Gibson. Là aussi, c'est hyper académique, hein. Je veux dire, voilà. Ici. Alors, évidemment, celui de Baz Luhrmann, lui, est par contre plus vivant, plus musical. Il n'y a pas beaucoup de musique dedans. Leonardo DiCaprio, Claire Danes. Et effectivement, ça se passe à Verona Beach. À Verona Beach. Effectivement, c'est super moderne, hein. Puisque là, on règle les comptes à coups de flingue et de poursuite automobile. Moi, j'ai beaucoup adoré cette version-là, quoi. Donc voilà ce qu'il en est pour...
Je voulais pas te contredire.
Oui, oui, non, je sais, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a Hamlet. Tu sais, celui qu'on...
Hamlet, oui. Je m'appelle... Non.
Oui, c'est lui. Tu sais qu'on ne fait pas d'Hamlet sans casser des œufs.
Oui.
Donc voilà, donc la tragique histoire du prince de Danemark. Le roi du Danemark est récemment mort.
Bravo à eux d'ailleurs, oui. Ils ont gagné l'Eurovision.
Oui, oui,
hein.
Oui, tout à fait. Son frère Claudius règne et 2 mois plus tard épouse Gertrude. Ah oui, c'est toujours ses noms, ça fait toujours plaisir. La veuve de son frère. Le spectre du roi apparaît à son fils Hamlet et lui avoue qu'il a été assassiné par Claudius. Hamlet décide de venger son père et simule la folie. Il utilisera une troupe de théâtre pour montrer les véritables circonstances de la mort de son père. Claudius interrompt la pièce, confortant ainsi les soupçons de Hamlet. Il avoue tout à sa mère et croit tuer Claudius caché derrière un rideau alors que ce n'est autre que Polonius. Il est forcé à l'exil. Ophélie se suicide, la fameuse Ophélie, se suicide en se noyant. Hamlet est en Angleterre et veut rentrer. Claudius somme Laërte, le frère d'Ophélie, de se battre en duel avec son neveu et là, tout le monde meurt à la fin. C'est une super pièce, super rigolote. En 1920, il y avait déjà eu un film français de Clément Maurice avec la fameuse Sarah Bernhardt. Tu connais Sarah Bernhardt? C'était une très grande actrice.
Elle faisait combien? Un mètre combien?
Non, bah, disons qu'elle a été amputée un petit peu d'une jambe, donc ça ne l'a pas aidé. Mais... Et qui, elle jouait donc le rôle d'Hamlet, puisque c'était une grande actrice. Elle jouait souvent les rôles d'hommes. Elle jouait l'aiglon aussi, très connu. En 1948, le Hamlet de Sir Laurence Olivier, évidemment, il y a eu une version russe, enfin du moins soviétique, en 1964, de Grigori Gosnitsev. Donc c'est une version plus romantique, moins froide, parce que c'est quand même hyper froid. Hein. Bah, en même temps, c'est le Danemark. Hein. Dans un décor monumental. En 1990, il y a le Hamlet de Franco Zeffirelli avec Mel Gibson. Et en 96, l'Hamlet de Kenneth Branagh avec Kate Winslet.
C'est une Hamlet norvégienne.
Plutôt danoise, hein, tu m'excuseras. En 2000, il y a toujours le Hamlet de Michael Almeida avec Ethan Hawke, Kyle MacLachlan, Bill Murray qui joue Polonius, Julia Stiles et finalement, encore, qui joue Ophélie.
C'est en quelle année ça?
2000.
Ah.
Et il y a deux petites versions, To Be or Not To Be, en 1942, d'Ernest Lubitsch, et Les Salauds dorment en paix, d'Akira Kurosawa, qui s'inspire de l'intrigue dans un Japon d'après-guerre. Tu sais, c'est le fameux To Be or Not To Be. Et il y avait aussi, dans Last Action Hero, le fameux passage où le personnage enfant imaginait Hamlet avec le corps de Arnold Schwarzenegger et qui disait « Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Être ou ne pas être. » Et là, tout expose. « Ne pas être. » C'était merveilleux. Donc, songe
d'une... T'as marqué, celui-là. Ah oui,
oui.
Souvent.
Oui, bah oui. Bah, donc, songe d'une nuit d'été. Donc en fait, il y a plusieurs histoires en même temps, des histoires de couple d'amants entre Lysandre et Démétrius, Elena et Hermia d'autre part. Ça va faire un peu telenovelas brésilien. Hermia veut épouser Lysandre, mais son père Égée la destine à Démétrius, dont est amoureuse Elena. Tout s'enfuit dans la forêt. Pendant ce temps, Oberon, roi des fées, a ordonné à Puck de verser une potion sur les paupières de sa femme Titania. La confusion règne, d'autant plus qu'une troupe de théâtre répète pour le mariage de Thésée, duc d'Athènes, et Hippolyte, reine des Amazones. Donc voilà. Donc en 1935, il y avait la version de Max Reinhardt avec James Cagney et Mickey Rooney, qui jouait Puck. Et puis il y avait une version, et là on revient à l'émission précédente, de Ingmar Bergman en 1955. On n'y échappera pas décidément.
La Scandinavie.
Oui. Tout à fait.
C'est pour la vie.
Voilà, c'est ça. Et en 1982, il y avait la comédie érotique d'une nuit d'été de et avec Woody Allen et Mia Farrow.
Miaou.
C'est ça. En 99, le songe d'une nuit d'été de Michael Hoffman avec Kevin Kline qui joue Bottom, Michelle Pfeiffer qui joue Titania, Sophie Marceau qui joue Hippolyte, Calista Flockhart Elena, celle qui joue dans Ally McBeal, voilà. Sam Rockwell, Christian Bale qui joue Démétrius, notre cher Batman, Rupert Everett qui joue Oberon et Stanley Tucci qui joue Puck, dans une Toscane, je pense, du 18e siècle. Donc, à un moment, ils se poursuivent à vélo. Moi, j'ai beaucoup aimé cette version-là. Elle est pas mal.
C'est ton choix.
Ensuite, il y a le Roi Lear, parce que là, on rentre dans les trucs un peu compliqués. Donc, il y a deux histoires imbriquées. Le Roi Lear et son fidèle sujet, le comte de Gloucester.
Je connais la ville,
oui. Oui, Gloucester.
Une bonne équipe de rugby.
Ouais, c'est ça. Bravo, vive Toulon. Le roi Lear partage son royaume entre ses trois filles. On leur demande en échange d'exprimer leur amour. Goneril et Regan s'empressent de faire ses louanges. Mais Cordelia refuse de rivaliser, ayant peur de dénaturer le véritable amour qu'elle porte à son père. Le comte de Gloucester se laisse convaincre par son fils bâtard, Edmund, que son fils naturel complote contre lui, le fameux Edgar. Il répudie ce dernier et sera évincé par Regan et son époux en apprenant qu'il est encore fidèle à Lear. Lear comprend la fausseté de ses filles et s'éloigne de plus en plus du pouvoir, fou de douleur, et quitte la cour. Cordelia soulève une armée, mais est défait par la coalition de ses sœurs. Cordelia accepte de rester seule avec son père, mais Edmund ordonne leur exécution. Edgar, déguisé en vagabond fou depuis qu'il a été répudié par son père, se bat contre Edmund et le blesse mortellement. Gunnerhild, qui a fait empoisonner sa sœur, se suicide pour suivre Edmund dans la tombe. Ce dernier revient avant d'agoniser sur l'ordre de tuer Lear et Cordelia. Mais hélas, trop tard, Lear apparaît portant le corps de Cordelia. Il meurt contre le corps de sa fille. Et oui, c'est toujours triqué. En 1953, le roi Lear d'Andrew McCulloch avec Orson Welles. Et en 1971, la version soviétique de encore Grigori Kounitsev de la Most Film avec une musique de Dmitri Shostakovich et basée sur les traductions de Boris Pasternak. Vous savez, celui qui a écrit le Docteur Jivago. En 1971, il y avait aussi le roi Lear de Peter Brook. En 83, le King Lear de Michael Elliott avec Sir Laurence Olivier. Et c'est sans doute un peu le plus connu, en 85, Ran d'Akira Kurosawa, qui a eu lieu au 16e siècle dans le Japon féodal. Donc voilà, et en 87, il y a King Lear de Jean-Luc Godard. Voilà, avec Peter Sellers, Woody Allen, Julie Delpy, Léo Carax. Donc ça raconte l'écrivain Norman Mailer, qui joue son propre rôle, doit écrire une nouvelle version du Roi Lear, car après Tchernobyl, la vie est sans doute revenue à la normale. Mais l'art n'existe plus. Et en 2013, il paraît-il qu'il va y avoir un Roi Lear avec Al Pacino.
Pacino ?
Al Pacino. Al Pacino. Ensuite, il y avait beaucoup de Bride pour rien qui a été faite par Kenneth Branagh. Donc, il joue là aussi dedans. Emma Thompson, Keanu Reeves, Kate Beckinsale, Robert Sheen Leonard, qui est le fameux pote de Dr. House. Hein.
Mais il a dû sortir de prison d'ailleurs.
Oui.
Keanu Reeves. Oui. Il semble qu'il a tourné un film là, qui sort en 2013.
Oui, sans doute.
C'était juste une parenthèse. Ouais, d'accord. Parler de Keanu Reeves.
Voilà. Denzel Washington et Michael Keaton et Imelda Staunton, la Dolores Umbridge de Harry Potter. Il y a La Nuit des Rois aussi. Alors par contre, ça a eu lieu beaucoup en téléfilm. Il y a une version russe qui s'appelle Adventadstaya Noche d'Abramov et Yann Farid. Il y a une version anglaise, Twelfth Night, Or What You Will de Trevor Noon avec Imogen Stubb, Ben Kingsley, Helena Bonham Carter, 2001 Noche de Reyes de Michael Bardem. Et She's the Man, c'est une version un peu plus comique d'Andy Fickman. Donc c'est à l'époque moderne et ça parle d'une équipe de football féminin. Voilà. Il y a aussi Jules César. Donc évidemment, la pièce qui relate la conspiration contre Jules César et ses conséquences. En 1950, il y avait César de Daven Bradley avec Charlton Heston. 1953, Jules César de Joseph Mankiewicz avec Marlon Brando qui joue Marc-Antoine, James Mason qui joue Brutus et Louis Callen qui joue Jules. Et en 2012, il y a eu César doit mourir des frères Taviani. Donc c'est, en fait, c'est une docu-fiction sur les détenus de la prison qui jouent cette fameuse pièce. Une prison de haute sécurité, Rabibia à Rome. Et évidemment, ce qui est sans doute aussi un film assez connu, c'est Henri V. Donc, il raconte la glorieuse expédition militaire du souverain britannique éponyme et de ses compagnons d'armes sur le continent. Cet épisode célèbre de la guerre de 100 ans allait être couronné par la fameuse bataille d'Azincourt qui aura lieu donc au cours de cette pièce où une génération de la noblesse française allait périr hein, quand même.
Il n'y avait pas aussi un Richard III là de Richard
Blanquet. Oui, mais j'y viens. Ah. De cette épopée patriotique, Henri V développe une méditation profonde sur la politique, sur la nature et la finalité du pouvoir. Il y a deux versions qui sont connues, c'est celle de Sir Laurence Olivier en 1944 et surtout, moi celle que je préfère, celle de 1989, de et avec Kenneth Branagh, avec Ian Holm
toujours
et
lui,
Robbie
hein.
Coltrane. Hein
toujours, Mr. Branagh.
Ah ben toujours, oui. Toujours.
Est-ce que c'est un spécialiste de l'adaptation de Shakespeare?
Ah mais tout à fait, tu viens de me le dire. Oui, tout à fait, parce que c'est un acteur et un metteur en scène de théâtre doué. Kenneth Branagh n'a aucun mal à faire passer sa fougue et son dynamisme à l'écran. Ses qualités très communicatives font de lui un cinéaste stimulant et presque toujours intéressant. Peut-être parfois embarrassé d'une caméra qu'il aime à faire tournoyer. Au vu donc de Henri V et de son adaptation scrupuleuse et soignée de Frankenstein, qui a pourtant été longtemps répudié, on peut reprocher Branagh de Sir Laurence Olivier. Très actif, il se prête aux autres comme acteur shakespearien dans le fameux Othello de Olivier Parker en 95, mais en tant que cinéaste, il continue patiemment à se dévouer à Shakespeare, soit dans le Modesty au beau milieu de l'hiver, où les acteurs ratés répètent une pièce du grand Will, soit dans l'ambition, comme il vous plaira Hamlet, ce dernier se propose de donner une adaptation de l'intégralité de l'œuvre de Shakespeare, entreprise titanesque Branagh s'est servi. D'une ampleur épique, quand même 4 heures, hein. De vraies idées de mise en scène, le célèbre monologue dit dans une atmosphère de fête finie face à un miroir. C'est encore Shakespeare qui l'inspire qu'en poussant jusqu'au bout de quelque chose qu'il avait amorcé mais moins de grâce avec beaucoup de bruit de rien, il transforme Peine d'amour perdue en délicieuse et émouvante comédie musicale aux couleurs resplendissantes constellées de magnifiques chansons empruntées en Gershwin, Cole Porter ou Jérôme Kern. Son sens du spectacle musical est également bien utilisé dans La Flûte enchantée de Mozart et c'est lui aussi qui fera le fameux blockbuster Thor. Adapté du comics. Et là aussi, on l'a un peu décrié, puisqu'évidemment, il donne vraiment le ton shakespearien. Et donc, comme tu disais, il y avait le fameux Richard Tree.
Avec le charismatique Ian
McKellen. Donc Gandalf. Hein. Mm. Donc oui, c'est l'accession de Richard III au pouvoir. Et donc, il doit tuer son frère, ses deux frères, ses neveux pour arriver. Il séduit Lady Anne sur le corps encore chaud de son époux qu'il a fait tuer. Évidemment. Alors, il y a cette version-là aussi, la version évidemment de Sir Laurence Olivier en 55. Moi, ce que je préfère, et je te propose
c'est
de le regarder.
C'est une préférence. Hein.
Ben, moi, j'adore, hein, mais c'est celle de 96, Looking for Richard, d'un film de Al Pacino. Al Pacino veut monter la pièce. Il cherche des documents, des personnalités ayant joué Shakespeare, comme Kenneth Branagh, Vanessa Redgrave aussi, des historiens, et il joue des passages de cette pièce, évidemment, le début, puisque c'est là où Richard III distille tout ce qu'il va faire dans la pièce, le passage avec Lady Anne, le meurtre de son frère, qui est joué par Alec Baldwin, et évidemment, ses collusions avec le duc de Buckingham, qui est joué par Kevin Spacey. On en verra aussi Winona Ryder sous les traits de Lady Anne. Moi, je voulais aussi faire un petit rapport aussi avec Titus Andronicus, qui est vraiment superbe. Je vous fais un court résumé. Donc en fait, c'est le Titus qui rentre, qui est un général vaillant et héroïque, ayant combattu les Goths, comme dans Gladiateur, à l'époque romaine, hein, il revient en triomphe à Rome avec des prisonniers, dont la reine des Goths, Tamora, et ses trois fils. Il en fait sacrifier, puisqu'il a, comme il a perdu beaucoup de fils, il donne un des fils de Tamora en sacrifice, même si la reine le supplie. Tout le peuple le pousse à devenir empereur. Il se désiste en faveur du fils aîné de l'empereur précédent, Saturnus, qui, avec Bassinius, veulent épouser son unique fille. Parce qu'il avait 14 enfants, mais une seule fille. Saturnus, qui lui, en fait, renonce à épouser Lavinia, la fille de Titus, et d'épouser Tamora, qui va jurer de se venger de Titus. Les fils de Tamora tuent Bassinius et violent et mutilent Lavinia. Puis on demande une rançon à Titus pour sauver la vie de ses deux fils accusés du meurtre de Bassinius. Titus accepte de se couper une main. Mais il est trompé par Aaron, le mort amant de Tamora. On lui rapporte sa main ainsi que la tête de ses fils. Titus, apprenant qui a outragé Lavinia, va se venger. Lors d'un repas fatal, la pièce se clôt par la nomination d'un dernier fils, Lucius, comme empereur. Il faut aussi ajouter que Tamora accouche d'un enfant métis, que Aaron cache, et fuyant la colère de Saturnus, il tombe dans les mains de Lucius et avouera le complot de Tamora, mais ne regrettera rien de ses actes. Il est superbe ce passage, ce moment-là. Donc il y a un film de Julie Taymor avec Anthony Hopkins qui joue Titus, Jessica Lange qui joue Tamora, Jonathan Rhys-Meyer qui joue Chiron, l'un des deux fils de Tamora, qu'on connaît grâce à la série Les Tudors, donc le fameux Henri VIII, Mathieu Rhys dans Love et ses petits désastres, et Agnus MacFadden qui joue Lucius, et qu'on avait vu sous les traits de Robert the Brave dans Braveheart.
Très bien. Eh bien, nous allons refermer cette page shakespearienne, parce qu'on ne va pas s'éterniser, il y aurait vraiment des heures et des heures d'émission.
Mais, ouais.
Donc moi, je vais revenir en France, hein, parce que bon, vive la France.
Tout à fait.
Mais on va rester noir et blanc, puisque à l'origine, Marcel Pagnol créa Marius pour le théâtre. C'est un triomphe, donc c'était en 1921. Mais l'arrivée du cinéma parlant lui ouvrit de nouveaux horizons. 3 ans plus tard, la pièce est donc adaptée sur grand écran par un metteur en scène américain, Alexandre Corder.
Corder,
yeah.
Corder.
Yeah. Yeah. Sous l'étroite surveillance de Mister Pagnol, bien sûr, la même... La même année, l'auteur achève l'écriture d'une première suite, hein, Fanny. Nouveau succès théâtral. Néanmoins, la pièce est très vite retirée de l'affiche, l'auteur désirant donc toucher un plus large public grâce au cinéma. Fanny se voit donc à son tour adaptée désormais par le cinéaste Marc Allégré. La critique est mitigée, mais le public répond en masse à cette histoire bouleversante, à vous fendre le cœur. Parallèlement, Pagnol se lance lui aussi dans la réalisation avec Geoffroy. Donc cette nouvelle expérience lui donna ainsi tout le potentiel requis pour mettre en scène le dernier volet de ce qui devint une trilogie, c'est-à-dire César, sans passer par la case scénique là. Toutefois, le script du film sera adapté 10 ans plus tard pour le théâtre. Donc incontournable, ces 3 films constituent de purs chefs-d'œuvre, hein, d'humour et d'émotion écrits avec maestria, et dont le jeu des comédiens principaux nous laisse définitivement sans voix, hein, Mister Rému, Fernand Charpin et Pierre Freinet, toute une époque, mon cher Mister Gwen. Bon, moi je vais passer aux USA avec Mister Tennessee Williams, célèbre romancier américain qui a eu 2 Pulitzer, me semble-t-il.
Hein. Eh oui, ainsi est vécu Tennessee.
C'est bien, Johnny. Donc, comment ne pas parler de Un tramway nommé Désir en 1947, hein, sans doute l'œuvre la plus connue. Ce roman récompensé, comme je le disais, d'un Pulitzer en 1948 est adapté la même année au théâtre et révèle un jeune inconnu de l'Actor Studio. Mmh. En 1951, ce même acteur reprend son rôle de bof alcoolique et violent aux côtés de Vivien Leigh dans le film Délire Kazan. Si la pièce est régulièrement jouée au théâtre, il est très difficile d'envisager depuis un autre Stanley Kowalski que Marlon Brando et son fameux t-shirt sale.
Oui, tout à fait, son Marcel.
Donc deuxième adaptation, parce qu'il en a eu un vivier de ces adaptations de Mister. Donc soudain l'été dernier, 1958, cette pièce de théâtre est adaptée par Joseph L. Mankiewicz. Mankiewicz, tu dis
Mankiewicz, toi oui.
Et de Jack Nicholson, Hein, ce thriller met en scène Catherine Hepburn en vilaine marâtre voulant faire lobotomiser sa nièce. Bonne ambiance donc.
Bah, décidément, la lobotomie, ça le suit, Nicholson.
Oui, c'est vrai. Ça vole au-dessus d'un nid de coucou.
Voilà, c'est ça.
Donc La chatte sur un toit brûlant en 1955, le film sort également en 1959 avec Elizabeth Taylor dans le rôle titre et Paul Newman hein, interprétant son mari alcoolique notoire.
Décidément.
Maggie the Cat hein, a fait de ce huis clos familial l'un des grands classiques d'Hollywood des années 50. Mmh. Paul Newman d'ailleurs en pyjama tout au long du film n'est pas étranger non plus au succès de cela. Donc La ménagerie de verre aussi 1944, la première pièce de Tennessee Williams a été adapté donc deux fois, la première fois en 1950 par Irvin Rapper, avec Kirk Douglas, donc, et une seconde en 1987 avec Paul Newman, avec John Malkovich. Encore une histoire donc, de famille hein, et de névrose qui a passionné donc, les foules puisqu'il s'agit de la plus adaptée. En 1973, un téléfilm a été tourné même avec Catherine Hepburn. La Rose tatouée aussi en 1951, Mr. Gwen adaptation ciné a souffert de la censure hein, en 1955 puisque sexualité et critique de la bigoterie sont à peine abordées alors que omniprésentes dans la pièce. Il reste tout de même la présence de Burt Lancaster. Excusez du peu quand même et de la présence de l'auteur lui-même. Et donc nous allons clore cela avec Propriété interdite 1966 adapté par Sidney Pollack. Le scénario a été écrit par Francis Ford Coppola. Le film donc fait un peu chichiteux.
Chichiteux, oui.
Oui. Merci. De nos jours, avec donc ses envolées lyriques sur fond de grande dépression, mais il reste agréable à regarder avec donc bien sûr Robert Redford, Natalie Wood, Charles Bronson et Kate Reid. Et bien sûr le fameux Baby Doll, hein, 1956, réalisé par Elia Kazan. Ce film raconte l'histoire d'un homme qui attend que sa femme ait l'âge légal pour coucher avec elle. Donc voilà, voilà. Il a été retiré suite à la pression de groupes catholiques outragés. Comme bah la oui. France à une époque. Un film donc grinçant sur le vieux Sud, hein, donc avec Karl Malden, hein, Carole je ne sais, Baker, oui c'est ça, et Elie Wallar, sorti en France donc sous le nom de Poupée de chair.
Et moi je voulais revenir en France avec notre auteur le plus connu, notre cher Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, qui avec Madeleine Bégère a créé l'illustre théâtre qui fut un échec. Il ruinait, il dut fuir en province durant 13 ans et il revint à la cour de Louis XIV et dont les précieuses ridicules furent un rapide succès. Tartuffe, qui fut joué en 1664 à Versailles, fit scandale et interdit par le roi. L'année suivante, Don Juan suscite des remous. Il meurt durant une représentation du Malade imaginaire. Alors, il y a trois films qui sont un peu plutôt des biopics. Hein. Plus connu quand même est celui de Molière d'Ariane Mouchkine. Hein. Donc, de ses débuts modestes jusqu'à sa gloire royale, joué par Philippe Cobert, qui sort en 1978 et qui dure quand même 260 minutes. Il y a Marquise de Vera Belmont avec Sophie Marceau, Lambert Wilson qui joue Racine, Bernard Giraudot qui joue donc Molière et Patrick Timsit qui joue Gros René. Histoire de cette fameuse marquise qui jouait de ses charmes, qui épouse le Gros René et après il y a Molière qui arrive à la cour et qui veut écrire des drames mais il n'y arrive pas et il sera aidé par le jeune évidemment Racine qui tombe amoureux de la fameuse marquise et qui lui écrira Andromaque. Il y a le dernier sorti, c'est Molière de Laurent Tira en 2007 avec Romain Duris qui joue Molière, Fabrice Lucchini qui joue dans Monsieur Jourdan qu'on voit dans Le Bourgeois Gentilhomme, Laura Morante qui joue sa femme, Édouard Baird qui joue Dorante, Ludivine Cellier qui joue Célimène. Alors là, c'est l'histoire, c'est Célimène, voilà c'est ça. Donc c'est l'histoire de, où Romain Duris est sorti de prison grâce à Monsieur Jourdain en lui proposant de cultiver Monsieur Jourdain pour qu'il puisse rentrer dans les faveurs de cette chère Célimène. Évidemment, Molière va tomber amoureux de la femme de Jourdain. Et en fait, le film est assez drôle puisqu'il sort toutes les fameuses répliques connu du théâtre de Molière. Qu'allait-il faire dans cette galère? Marquise, de vos beaux yeux, je suis mort d'amour. D'amour, mes beaux yeux font mourir d'amour. Et le personnage de Célimène fait penser évidemment à la précieuse du siècle classique qu'on verra dans le film Ridicule. Tu vois, ces fameuses réunions où on se disait des bons mots et tout. Donc, Célimène est une très connue pour ça. Y avait l'avare de Jean Giraud avec Louis de Funès.
Ah oui.
Harpagon, hein, Harpagon, bourgeois avare qui a un fils, Cléante, et une fille, Élise. Cette dernière est amoureuse de Valère qui se fait embaucher comme intendant chez Harpagon. Cléante, lui, est amoureux de Marianne, que Harpagon veut épouser, et ce dernier veut épouser sa fille au seigneur Alcem, car il ne veut pas de dot. Donc voilà. Il y a levé le fameux Don Juan de Jacques Weber en 98 avec Michel Bougenat qui joue Sganaral, Emmanuel Béard qui joue évidemment Elvire et Denis Lavant. Il y a aussi en 2005, il y a Broken Flower de Jim Jarmusch. Donc c'est un vieux Don Juan, Bill Murray, qui reçoit une lettre d'une ancienne conquête qu'il a eue où il apprend qu'il a un fils et il part à la recherche de ce dernier. Donc il y a Sharon Stone, Jessica Lane, Tilda Swinton, Julie Delpy, Chloé Sevigny. En 95, il y a le malheureux Don Juan de Marco de Jérémy Lavant avec Marlon Brando et Johnny Depp. C'est pas la peine de le regarder, il est naze.
Alors, tu en parles ?
Mais parce que
il faut pas en parler. Tu leur fais de la pub.
C'est vrai qu'il y a eu peu de films sur les pièces même de Molière.
Si, il y a aussi le celui qui est sorti en 2012, Alceste à bicyclette.
Oui.
Avec le Kini,
oui, non mais
sur le misanthrope.
Oui, mais c'est sur le misanthrope, mais c'est pas une pièce sur la pièce elle-même, je veux dire. Ah. Donc moi, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est vraiment de, parce que la Comédie française a évidemment pris les œuvres de Molière et les a mis en DVD. Donc il faut absolument les voir. Il y a Georges Dandin avec Bruno Puzulu, Les Fourberies de Monsieur Scapin avec Philippe Doreton.
Il y a pas le Malade Imaginaire aussi ?
Oui, il y a le Malade Imaginaire. Non. Parce que c'est vrai que si on regarde toutes les pièces, le Misanthrope, le Bourgeois Gentilhomme, l'Avare, les Fourmeries d'Escapin, les Femmes Savantes, l'École des Femmes. L'École des Femmes qui, quand même, a été connue puisque...
Enfin, avec Jacques Martin.
Non. Ah. C'est l'École des Femmes. Non, puisque c'est là qu'une certaine comédienne a fait sa première apparition, Isabelle Adjani, avec Bertrand Blier. Donc c'est là où elle a été reconnue et sa carrière a commencé. Puis moi, mon préféré, hein, vous m'excuserez de me le repasser quand même celui-là, c'est Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Donc il a écrit, parce qu'il est né à Marseille en 1668, et c'était le petit-fils du maire hein, quand même. Hein. Et puis toute la famille Rostand, c'est que des mecs connus, hein, et il est mort à Paris. Il a écrit L'Aiglon, dont le fameux pour Sarah Bernard. Cyrano de Bergerac, c'est un 5 actes en vers, en alexandrin, écrite entre 1896 et 97. Cyrano est un rebelle à toute autorité. Il attaque Montfleury, l'acteur du théâtre, au théâtre. Donc c'est une pièce carrément qui commence dans un théâtre.
Oui.
D'abord parce qu'il joue mal et surtout parce qu'il a reluqué Roxane, Madeleine Robin, sa fameuse cousine et son amour secret. Il se bat en duel avec un fat, donc la fameuse tirade du nez. Mmh. Un ami du comte de Guiche, lui aussi, est pris de Roxane. On apprend par les confidences faites à Lebré que Cyrano aime bien, fort bien, mais il en veut à son visage qui l'empêche d'aimer sa fameuse Roxane. Là, la servante de Roxane apparaît, lui donne un message. Roxane avoue qu'elle est amoureuse de Christian de Neuvillette et qu'elle a peur, comme il est admis au cadet de Gascogne, qu'il soit pris à partie. Elle demande donc à Cyrano de le protéger. Lui va le rencontrer, il le trouve beau, il est pris d'affection pour lui. Il va l'aider dans sa conquête amoureuse de Roxane par le biais de sa poésie. Donc c'est lui qui dictera, puisque hélas, notre cher Christian se trouve être un peu neuneux au niveau de la discute. Donc voilà, et donc il y a le fameux épisode du balcon, voilà, et ensuite le mariage que Roxane fait maladroitement pour épouser Christian avant qu'il parte à la guerre. Il y a le siège donc qui se passe à Arras, qui n'est pas sans rappeler évidemment la fameuse bataille d'Azincourt de Georges V. Donc voilà, et évidemment Christian meurt avant que Cyrano puisse déclarer véritablement sa flamme à Roxane, et on en voit la scène après 14 ans plus tard où Roxane recluse dans un couvent reçoit tous les dimanches la visite de Cyrano, et là il est victime d'un attentat. Il vient quand même, il lit la fameuse lettre de Christian qu'il avait écrite lui-même, hein, et évidemment comme c'est la pénombre, que Roxane découvre qu'en fait il la connaît par cœur, et là elle apprend la supercherie, mais hélas trop tard, il meurt. Donc il y avait trois trois versions. Donc la première d'Auguste Jeanina en 1925, ensuite en 45 de Ferdinand Reivers, Michel Gordon en 50 avec José Ferrer, Claude Barma en 1960 et évidemment la plus connue, celle de Jean-Paul Rapneau en 90 avec Gérard Depardieu dans le rôle titre, Anne Brochet qui joue Roxane, Vincent Pérez, Christian de Neuvillette, Jacques Weber, le duc de Guiche. Et il y a évidemment des acteurs de la comédie française qui jouent notamment le rôle de Ragueneau. Il y a eu de nombreuses coupures dans le texte, hein. Notamment tout le début, tout le truc du théâtre, il y a beaucoup de coupures, hein, puisqu'on voit aussi la présence d'un certain D'Artagnan qui apparaît dans la pièce très furtivement. Hein. Donc voilà, et effectivement, pour moi, c'est vraiment l'image qu'on peut se faire du théâtre au cinéma. La transposition est excellente. Enfin, Gérard Depardieu joue un autre rôle que Gérard Depardieu. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu la pièce au théâtre, jouée par un autre grand comédien français. Par contre, Roxane était moche comme tout. Donc, Belmondo l'avait joué. Hein.
Ah oui, oui.
Belmondo l'avait joué. Et Jacques Weber, ensuite, la reprise au théâtre. Et d'ailleurs, il avait fait une tournée à Paris dans des endroits insolites. Donc, chaque jour, il choisissait un lieu et il jouait la fameuse pièce. Et moi, je trouve que cette pièce-là, elle est vraiment fantastique. Donc on va arrêter avec les classiques parce que je vois que ça énerve notre cher Hugo puisqu'il n'aime pas les morts et on va arriver vers les vivants. Sans toutefois faire juste un petit rappel, mon cher Hugo, ne pars pas dans tes starting blocks tout de suite. C'est le fameux Fil à la patte en 2005 de Michel Deville avec Emmanuel Béart, Charles Berling, Dominique Blanc, Julie Depardieu, Sarah Forestier, Tom Novembre et Patrick Timsit. Donc c'est l'histoire de Bois d'Anguin qui aime Lucette, hein, Emmanuel Béart, la diva, sa maîtresse, mais il doit rompre car il va signer l'après-midi même son contrat de mariage avec Viviane Duverger, jolie jeune fille avec une jolie dot. Madame Duverger, donc Dominique Blanc, la mère de Viviane, veut Bois d'Anguin comme gendre, mais le veut-elle vraiment que pour ça? Un nouveau riche apparaît, Iroaga, qui veut s'offrir Lucette comme maîtresse. Tout l'entourage de Lucette, y compris Bois d'Anguin, est d'accord, puisque Iroaga est riche. Mais il est aussi très très jaloux. Donc ça, c'est une pièce de Feydeau. Puisque, je te rappelle, à l'époque, Antenne 2 avait fait beaucoup de représentations de Feydeau.
Théâtre ce soir ?
Non, pas spécialement, puisqu'il y avait une pièce, et d'ailleurs je crois que c'était le Fil à la patte, où je crois qu'il y avait aussi le Dindon, où c'était les animateurs d'Antenne 2 qui jouaient les rôles. Donc voilà, il est très bien. Bon, après, c'est le côté de Feydeau, c'est plus comique, on est loin du drame. C'est évidemment dans la veine, comment ça s'appelle, au théâtre ce soir, c'est les fameuses surprises Au ciel mon mari, et voilà. Mais, et d'ailleurs, c'est écrit à la même époque que Edmond Rostand.
Merci Monsieur Gouen pour cette page dramaturgie de 45 minutes. Maintenant, nous allons un peu rire hein, quand même, parce qu'il faut.
Mais Feydeau, c'est rigolo.
Mais bien sûr.
Et Molière aussi.
Oui.
Parce qu'il n'avait pas réussi le drame, mais il a réussi, par le biais de la comédie, à faire passer des choses sérieuses.
Il est fort. Le Père Noël est une ordure.
Ah, c'est cela, oui.
Parce que moi, je m'intéresse aux films, les transpositions au théâtre, hein, pas que des pièces.
Ben oui, mais c'est important d'abord.
C'est cela, oui.
Tête d'Aran.
Film français donc de la troupe du Splendide, réalisé par Jean-Marie Poiré, 1982, adapté donc de la pièce de théâtre éponyme, créé en 1979 par la même troupe. Oui. Donc, je ne vais pas vous faire un synopsis, hein, c'est connu, archi connu. Vous
oui, voilà. Noël, et d'ailleurs, etc. C'est marrant parce qu'au début, il est mal sorti au niveau théâtre, mais c'est grâce à sa retransmission télévisuelle.
C'est cela. À sa sortie donc en salle,
joyeux
le film
Noël,
fut
Félix
boycotté par la RATP,
oui,
qui refusa donc de louer des panneaux publicitaires pour l'affiche en raison de son titre provocant.
Et encore, parce que logiquement le titre original, c'est Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul.
Voilà. Donc qui devient un film culte après donc ses diffusions à la télé, comme Mr. Gwen disait, donc destiné. Le slow chanté par Guy Marchand et non par Gwen, sur lequel donc Pierre et Katia dansent, a été composé et édité par Mr. Marchand lui-même et Vladimir Cosma pour le film de Claude Zidi, Les Soudoués en vacances.
Eh oui, Guy Marchand.
Sorti la même année. Donc en 1994, il y a eu un remake américain qui s'appelle Mixed
Nuts.
Oui, de Nora Ephron.
Eh oui, notre chère Nora Ephron. Hein.
Un petit mot sur le Dobichu. Donc spécialité bulgare, bien sûr, hein, qui est fictive. Hein,
c'est sans fin, on le mange sans fin.
C'est une trouvaille de Josiane Balasko, qui signifiait petit cul en serbo-croate. C'était donc les fameux truffes au chocolat.
Oui. Roulé sous les aisselles ?
Oui. Un air de famille, donc réalisé par Mr. Cédric Clapiche en 1996, d'après la pièce éponyme, donc d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, la famille Ménard se réunit toutes les semaines au Père Tranquille, le café donc tenu par Henri, le fils aîné. Mmh. Cette fois-ci, elle s'y rassemble pour célébrer le 35e anniversaire de Yolande, épouse de Philippe le cadet.
Catherine Faux.
Oui. Pendant que l'on attend la femme d'Henri, hein, qui, on apprendra donc au début du film, vient tout juste de quitter le domicile conjugal. Les petites préoccupations de Philippe, cadre dans une société d'informatique, prennent rapidement le pas sur les politesses d'usage. Comme sa mère ne manque jamais d'ailleurs de le rappeler, hein, celui-ci occupe une position importante dans une grande entreprise de programmation de la région. Elle s'inquiète également du célibat de sa fille Betty, la Benjamine qui sort secrètement avec Denis.
Jean-Pierre Darroussin.
Le serveur du Père Tranquille. Alors que les vieilles rancunes donc ressurgissent, le ton ne cesse de monter jusqu'à l'avènement d'un nouvel ordre familial. Donc c'est un film césarisé et moliérisé.
Oui, tout à fait. Oui.
Je ne sais pas si ça se dit moliérisé.
Si, si.
Donc on va rester dans le, oui, dans le Bacri Jaoui.
Oui, tout à fait.
Avec le fameux Cuisine et Dépendance. Ouais.
De Philippe Muil.
Donc adapté de la pièce de théâtre éponyme, toujours d'après donc Mrs. Jaoui et Bacri, et qui est sortie en 1992. Donc Jacques et Martine.
Oui, qui est joué par Sam Kerman, vous savez, celui qu'on peut tromper mille fois. Non, on peut pas tromper mille fois. Non, on peut.
Elle est nue ton intervention, ça t'apprendra à couper la parole. Jacques et Martine, donc un couple.
Zabou Bretman.
Un couple de bourgeois ordinaires, donc qui invite à dîner deux amis.
Deux amis.
Perdu de vue depuis 10 ans, un écrivain et journaliste à succès et sa femme entièrement nue. Dévolue à sa
dévolue,
carrière.
Dévolue, oui, Agnès Jaoui.
Parmi donc les invités figure aussi Georges.
Oui, Jean-Pierre Bacri.
Le copain hébergé et Fred.
Jean-Pierre Darroussin.
Le frère de Martine avec sa copine Marilyn, qu'on ne verra jamais.
Mais l'invité non plus d'ailleurs, oui. Hein, l'écrivain.
Prétextant un embouteillage, l'invité donc, et sa femme, Charlotte, arrive avec 2 heures de retard. Je vous laisse bien sûr Jean-Pierre Bacri, très content.
Oui, mais c'est là où apparaît vraiment son habitude d'être au râleur.
Donc, succès, donc phénomène de la scène avec donc 4 Molières.
Oui,
hein, quand
4
même.
Molières, oui.
On retrouve donc les mêmes acteurs.
Et non, mais c'est vrai que Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, ensuite, on fait pas mal de scénarios, notamment Smoking et No Smoking, de la pièce Intimate Exchange du Britannique Alan Ayckbourn en 1982. Et c'est eux qui ont fait les dialogues, hein, Jaoui et Bacri. Hein, c'est un film d'Alain Resnais qui a eu 2 films, Smoking. Et donc No Smoking, donc l'histoire présente une série de personnages dans un petit village du Yorkshire, interprété par 2 personnages, Sabine Azéma et Pierre Arditi. Donc elle joue 5 personnages féminins et lui 4 personnages masculins. Des décors et factices pour bien rappeler son origine théâtrale. Extérieur, certes, mais en studio. Alors évidemment, César du meilleur film, réalisateur, scénario original pour donc notre cher duo détonnant, acteur pour Pierre Arditi et le décor aussi. Ensuite, Bacri et Jaoui continueront à faire des scénarios. C'est Agnès Jaoui qui réalisera notamment Le goût des autres, comme une image, Parlez-moi de la pluie, Au bout du compte. Et c'est les deux qui sont scénaristes, mais là, ce sera plus du théâtre.
Oui, donc on va conclure avec le célèbre film qu'adore Anaëlle. Oui.
Le prénom.
Tout simplement, là, pour résumer cette émission, en fait, c'était comment ne pas faire du théâtre filmé.
Voilà.
C'est peut-être le reproche que l'on peut faire à Cuisine et Dépendance.
Oui, par contre, c'est vrai, oui. Je confirme.
Principal défi du passage des planches à la pellicule, éviter, comme disait Monsieur Gouin à l'instant, l'écueil du théâtre filmé. Car le théâtre est une chose, le cinéma en est une autre. Le premier, donc, contraint et réglé. N'est-ce point, hein. Laisse le regard du spectateur s'accrocher où il le souhaite. Le second peut se permettre tous les écarts possibles, hein, le cinéma bien sûr,
fixe
les plans, oriente l'attention et avec la proximité de la caméra provoque davantage l'émotion. Dans le cas du prénom, c'est pourtant le même duo que l'on retrouve à l'écriture de la pièce et aux commandes du film, scénariste pour le cinéma à l'origine, Alexandre de la
Patelière.
Merci. Et Mathieu
de la porte
ont justement écrit la pièce pour s'éloigner des contraintes du cinéma.
Vincent Larcher, donc Patrick Bruel, agent immobilier, qui joue aussi le narrateur, est invité chez sa sœur Elisabeth, donc la fameuse Babou, Valérie Benguigui, et son mari Pierre, Charles Berling, parents d'Apollin et Myrtille, Claude et Guillaume de... Mais on en parlera ça plus tard dans la pièce. Enfin bon, je vous laisserai voir. Trombiste dans un orchestre grâce à la mère de Vincent et Babou, dont il est un très grand ami et aussi de la partie, donc de la soirée. Anna Judith Elzain, la femme de Vincent, est en retard. Vincent annonce qu'ils ont trouvé le prénom de leur futur enfant. Le choix de ce prénom mécontente fortement Pierre pour des raisons idéologiques. La dispute qui s'ensuivra, surtout avec l'apparition d'Anna qui est envenimera la chose et fera sortir les anciennes rancunes et surtout un lourd secret. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que le début est bien. C'est là où on voit l'avantage du cinéma vis-à-vis du théâtre. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'avoue que...
Tu vois Patrick Bruel un peu cynique.
Oui,
pas mal,
mais aussi. C'est ça. Et puis, non. Et puis, j'aime bien ces retournements de situation parce que c'est poussé d'une telle manière que tu vois un truc arriver et en fait, non. On te tourne à 180. Et là, effectivement, tu dis « Ah ouais, merde !» Donc non, moi j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai eu beaucoup d'appréhension à le regarder et puis finalement non, c'était une très belle surprise. Ben, moi je dirais qu'au vis-à-vis de tout ce qu'on a fait cette heure, c'est vrai que...
On peut pas tout dire, hein. Shakespeare, il faudrait une émission.
Voilà, il faudrait carrément une émission. C'est vrai que moi j'aime beaucoup le Shakespeare. En plus, l'avantage de Shakespeare, c'est qu'il est intemporel puisqu'il parle vraiment de trucs, du pouvoir, comme dans Richard III, Henri V, l'amour, Roméo et Juliette, beaucoup de bruit pour rien et autres, la vengeance, Hamlet, donc voilà, c'est vrai que lui il a beaucoup fait et je pense qu'en plus il y a des comédiens qui se sont vraiment appuyés sur lui comme donc on parlait de Kenneth Branagh, de Sir Laurence Olivier. J'avais aussi un petit film Ennemi juré de Ralph Fiennes qui est un grand amateur de Shakespeare, et c'est d'après la pièce Coriolan. Donc, et avec Gérard Butler et Jessica Chain, Vanessa Redgrave. Donc voilà, et c'est vrai que pour moi, Shakespeare marchera toujours mieux quelque part que Molière, parce que Molière, je pense qu'il porte beaucoup d'histoires, mais il est un peu figé dans le temps. En plus, la façon de parler est un peu plus compliquée. Je pense que pour tout comédien, le passage par un Shakespeare est un passage non pas obligatoire, mais désiré. Et c'est vrai.
Désiré.
Et bien, c'est sur cette jolie petite chanson qu'on va se lancer sur notre rocher préféré, qui lui aussi nous était destiné. Donc voilà. Alors, cette semaine, il y a donc 3 films. Alors, on va passer carrément aux positions antinomiques, hein, du cinéma, c'est-à-dire un blockbuster américain, un film iranien et un film canadien. Donc voilà.
Rebelle,
voilà. Donc on va commencer évidemment par le blockbuster. Hein.
Rebelle.
Non.
De Kim Nguyen.
Tu voulais te lancer d'abord sur Rebelle.
Donc, ours d'argent de la meilleure actrice, hein, à Berlin, hein, puisque
oui.
c'est un ours, c'est normal.
Oui.
2012 pour Rachel M. Vangza. Donc, nommée aussi à l'Oscar du meilleur film anglophone, hein, Oscar 2000, Thérèse.
Oui, Thérèse, oui.
Oui, viens là, Thérèse. Non, bon, excusez-moi, Michel Blanc. Comona.
Comona.
Non, ça marche pas.
Comona Ragan.
Une jeune fille, revenons sérieux un peu, c'est un film sérieux.
Oui,
une jeune fille donc raconte à l'enfant qui grandit dans son ventre l'histoire de sa vie quand elle a dû faire la guerre de force.
Oui.
Dans l'armée des guerriers rebelles d'un pays d'Afrique centrale. Donc le seul qui l'aide et l'écoute est le magicien, un garçon de 15 ans qui
un
veut
albinos.
L'épouser. Donc au fil des mois passés ensemble, Comona et le magicien tombent amoureux l'un de l'autre et s'évadent pour vivre leur amour et trouver la voie de la résilience. Rebelle, donc, est une fable sur l'Afrique subsaharienne du 21e siècle, une histoire d'amour entre les deux jeunes âmes, prise au milieu d'un monde de violence, de beauté et de magie, une fable terrible et d'autant plus dérangeante que la mise en scène est efficace.
C'est pas sans rappeler Johnny Mad Dog, je sais pas si tu t'en souviens, sur ses si. Enfants soldats. Donc, et puis il faut rappeler que le dimanche 26 mai à partir de 19h15, il y aura une rencontre à l'issue de la projection avec Jane Martin, traductrice du livre de Lawrence Anthony, Les Derniers Rhinocéros, dans lequel cet environnementaliste où, dans le cadre d'une mission de sauvetage des rhinocéros, nous a fait les récits de sa rencontre avec un groupe de terroristes composé en partie d'enfants soldats devenus adultes. C'est en collaboration avec la librairie Mosaïque, qui présentera dans le hall divers ouvrages sur le sujet. Il y aura des grignoteries et des boissons offertes à partir donc de 19h15, rappelons-le.
Donc maintenant, nous allons passer aux sélectionneuses Canès et d'Émile Thérèse.
Oui, le passé.
Oui, très très bon film de Asghar Farhadi, comme a dit Monsieur Gwen, avec Bérénice Bejo, qui est d'ailleurs remarquable dans ce film. Je trouve que ça change un peu.
Et Tahar Rami.
Et Ali Mossafa.
Oui, qu'on avait vu dans Le Prophète, Tahar.
Tout à fait. Donc après... Donc après des années de séparation, donc Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran à la demande de Marie, son épouse française, pour procéder aux formalités de leur divorce. Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa fille Lucie. Donc les efforts d'Ahmad pour tenter d'améliorer cette relation lèveront le voile sur un secret du passé.
Voilà.
C'est une mise en scène brillante, au service d'un récit bouleversé, un sommet du polar amoureux, oui, parce que c'est ça avant tout. Mise en route d'une petite demi-heure est un peu longue, il faut le dire, mais à partir de là, les secrets explosent les uns dans les autres, façon poupée russe, jusqu'au plan séquence finale. Donc c'est un véritable arme de destruction massive qui vous mettra à genoux.
Oui, je pense que c'est un avantage du film et un inconvénient. C'est peut-être qu'il y a un pléthore un petit peu trop souvent de secrets qui sont révélés. Il faut aussi dire que c'est le premier film d'Asghar Farhadi en France.
Oui.
Donc, voilà.
Parce qu'il avait fait une séparation aussi.
Oui, une séparation qui a été très
bon film.
Très bon film aussi. Oui.
Et donc, comme disait Mr. Gwen,
Iron Man 3,
yes,
The Chain Black,
Mr. Stark,
avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Guy Pearce et évidemment Gandhi. Non, Ben Kingsley.
C'est nul, mais sortez-le. Quoi. Donc, Tony Stark, l'industriel flamboyant, qui est aussi Iron Man, on ne le savait pas.
Oh non!
Est confronté cette fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les fronts.
Tomber dans sa piscine lui aussi.
Oui, lorsque son univers personnel est détruit, Stark se lance dans une quête acharnée pour retrouver les coupables. Plus que jamais, son courage va être mis à l'œuvre à chaque instant. Dos au mur, qui est d'ailleurs pas mal aussi film, il ne peut plus compter que sur ses inventions, son ingéniosité et son instinct pour protéger ses prochesses. Non, ses proches.
Oui, c'est mieux.
Alors qu'il se jette dans la bataille, sans kukai, Stark va enfin découvrir la réponse à la question, oui, qui le hante secrètement depuis si longtemps. Est-ce l'homme qui fait le costume ou bien le costume qui fait l'homme? C'est votre prochain sujet de bac en philosophie.
Oui.
Scénario bien ficelé, gags visuels et super-héros bondissants. Un divertissement, après tout, agréable. En mixant donc humour, action à grand spectacle et même réflexion politique, il renoue avec un esprit décalé du premier Iron Man. Mmh. Donc Mr. Iron Man 3 a vraiment tout de bon. Un troisième volet qui renouvelle la saga.
En attendant,
Africa,
évidemment,
sûr,
sans doute,
avec
le
brio.
Avenger 2. Voilà.
Mais bon, c'est euphorisant. Il y en a qui disent qu'il est nul. Bon, après, c'est
ouais,
chacun
non,
son
mais
goût,
ça, de toute façon, je pense que
il y a
des déçus d'avance, de toute manière. Oui. Donc, eh bien, puisque nous arrivons à notre fin de notre émission, si Nanou.
Donc, la semaine prochaine, encore des adaptations.
Ah, super.
Nous parlerons donc des adaptations des pièces de théâtre au cinéma. Ah non, là, tiens. Non, revenons sérieusement à nos moutons. Donc. Lors de cette semaine, il y a eu la grande sortie de Django en DVD. Donc, nous parlerons tout simplement de Mister
Tarantino. Eh bien, c'est lancé. Eh bien, cher Quentin, cher Tarantino, nous voilà. ATC s'intéresse à toi. Fais gaffe à tes appétits.
Oui, c'est cela. À bientôt.
À bientôt. Tchou-tchou.
You-you.
Mon royaume pour un cheval.
Qu'on le laisse en lasagne.
Parodiant Pyrrhin, mon sanglot. Le voilà donc ce nez qui détrait de son maître, a détruit l'harmonie, il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, Vous n'avez que les trois qui forment le mot « saut ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir me servir devant la galerie, pareil assortiment d'amères moqueries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve.
Was convincing the world he didn't exist.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
You talking to me?
Life is like a box of chocolates.